Bonjour, bonjour, Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à sa tradition et qui par... Non, elle ne dérogera pas à sa tradition, je suis désolé, et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra dans le second cas, bienvenue, welcome, welcome, tout ce genre de choses, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier, c'est mieux, qui consiste à illustrer les petites images qui bougent sur les grands écrans, les petits écrans, un peu où vous voulez maintenant et quand vous voulez aussi. Ça, c'est une nouveauté, quand vous voulez, mais j'y reviendrai plus tard. Ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons évoquer la carrière ô combien protéiforme et ô combien abondante de Sergio Corbucci, un réalisateur et scénariste italien, né le 6 décembre 1926 à Rome, et qui nous a quittés dans cette même bonne ville le 1er décembre 1990, c'est-à-dire un peu prématurément quand même, mais en tout cas, si j'en juge à sa filmographie et sur les petites fiches qui ne me quittent jamais pour préparer les émissions de 24 notes secondes, eh bien l'homme aura bien employé son temps entre ses débuts quelque part dans les années 50 et son dernier film en 1989, c'est-à-dire vraiment très peu de temps avant son décès. Ses débuts, eh bien Sergio Corbucci est diplômé de sciences économiques, ce qui a priori ne le distène pas à aller vers le cinéma, mais il devient ensuite journaliste et devient même ensuite l'un des assistants d'un ce qu'il est convenu d'appeler les maîtres de ce qu'il est convenu d'appeler du cinéma néo-réaliste italien, Roberto Rossellini, l'auteur de Rome ville ouverte, de Paisa, le mari d'Ingrid Bergman avec laquelle il tourna 4 ou 5 films qui sont tous autant de chefs-d'œuvre, bref, l'un des grands réalisateurs, l'un des géants pour le coup du cinéma italien, mais dont le style, la pensée, les films, et c'est peu dire, sont très, très éloigné de ce que Sergio Corbucci finira par faire, puisque l'homme sera dans les années 50 jusqu'aux années 90 un peu l'homme à tout faire du cinéma italien. Il essaiera tous les genres, l'épouvante, le film policier, le film comique, le western, on va y revenir, et puis un peu tout. Et on va commencer par un peu tout justement en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1959. Alors en 1959, Sergio Corbucci en était déjà à son 10e film, a priori, donc, alors qu'il n'avait commencé qu'en 1951. Donc vous voyez que l'homme est des plus prolifiques. Alors j'avoue que le film, je ne l'ai pas vu, j'en sais peu de choses. Ça s'appelle « I ragazzi dei Parioli ». Apparemment, ça n'a pas été vu en France, donc il n'y a pas de titre français. L'histoire, telle que la résume ma petite fiche, et c'est joliment résumé, sic, un conte sur la classe supérieure italienne des années 50 et sa façon de tuer le temps. On pourrait y voir quelque chose comme un précurseur de la Dolce Vita de Fellini qui sortira en 1960, mais comme je ne l'ai pas vu, je me garderai bien de cette comparaison, si ce n'est donc de la suggérer. Dans les rôles principaux du film, il y a Raff Mattioli et Alessandra Panaro. Il y a aussi Nino Manfredi, qui est un peu plus connu, dans un rôle un peu plus mineur, mais nous ne sommes qu'au début des années 60. La musicale, elle est signée d'un nouveau familier de 24 notes secondes, Piero Piccioni. Et on en écoute un extrait, je vous le refais en italien, vous aimez tellement ça. I ragazzi dei Parioli, dans 24 notes secondes.
T'aspetterò da me e tu verrai perché tu sola puoi. Soltanto tu farmi sognare, ti stringerai a me senza parlare perché con uno sguardo tu mi dirai che mani. Wow, wow, wow. Sai mentire, ma nei tuoi baci lo saprò scoprire se il tuo amore è vero ed è sincero. Ah, t'aspetterò da me sola puoi, soltanto tu, farmi sognare,
farmi sognare.
T'aspetterò da me perché voglio sognare,
voglio sognare.
Autant le dire carrément, je suis fan des Wah 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 avec un cœur d'homme. C'est vraiment excellent. Ça fait tellement années 60, on a envie de... Allez, garçon, redonnez-nous un diabolomante pour tout le monde, s'il vous plaît, ce genre de choses. Bref, ça sent le, je ne sais pas, le carré Vichy, ce genre de choses. Bref, c'était un extrait de la bande originale de I Ragazzi dei Parioli, un film de Sergio Corbucci, notre héros du jour, duquel on en sait peu de choses. Mais alors, cette bande originale, vraiment, c'est la magie du cinéma et encore plus, je pense, la magie de la musique, de nous replonger instantanément dans une époque que pourtant on n'a pas vécu. C'est quand même assez étonnant et ça ne marche qu'avec la musique. C'est bien pour ça qu'il existe 24 notes secondes. On va rester avec Sergio Corbucci, je l'ai déjà dit, l'homme a tâté à tous les genres et il y en a un que j'ai oublié en essayant d'en faire une liste, c'était le péplum. Le péplum qui dans les années 60, alors aussi bien dans le cinéma américain avec de très grosses productions genre Quo Vadis, Ben-Hur, Le Roi des Rois, même si Le Roi des Rois c'est pas vraiment un péplum, qui mettait en scène une Rome en antique, souvent des plus fantaisistes, et bien évidemment, le cinéma italien, à Rome en plus, ne pouvait faire autrement que de s'essayer aussi aux gens avec des moyens souvent beaucoup, beaucoup moins considérables que le cinéma américain, et donc avec des résultats beaucoup, beaucoup moins probants parfois. Par contre, et ça c'est ce qui est quand même très amusant, c'est que bien souvent... les réalisateurs, toutes les équipes prenaient des noms américains alors même qu'ils ne l'étaient pas. Alors ce n'est pas le cas de Machiste contre le fantôme duquel nous allons écouter un extrait de la bande originale qui a été co-réalisé par Giacomo Gentilomo et Sergio Corbucci en 1961. Mais il y a un certain nombre de films italiens de l'époque où on s'amuse à retrouver derrière les pseudonymes américains le nom de réalisateurs italiens ensuite bien connus. Sergio Leone, par exemple, a commencé sur Le Colosse de Rome, si je me souviens bien, qui était un péplum tout à fait traditionnel des années 60. Alors, Machiste contre le fantôme, eh bien, ça reprend un personnage qui est une sorte de fil rouge traditionnel du cinéma italien qui avait débuté au muet. Machiste est une sorte de guerrier invincible. On va être poli en disant qu'il a plus de muscles, de cervelle, mais enfin, après tout, c'est pas ce qu'on lui demande. Lui, c'est un guerrier et donc il exerce sa force surhumaine au service du bien qui pouvait en douter. Dans ce film, le rôle de Machiste est tenu, comme je vous le disais, par Gordon Scott, qui est peut-être, je ne sais pas, Ugo Manfredini en italien. C'est peut-être un pseudonyme, je vais vérifier pendant que vous écoutez un extrait. La bande originale du film, alors lui, je suis sûr que c'est un pur italien, c'est Angelo Francesco Lavagnino, on ne fait pas plus italien, Machiste contre le fantôme dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la bande originale de Massis contre le fantôme, signé d'Angelo Francesco Lavagnino, pour ce qui est de la musique, de Sergio Corbucci et Duccio Tessari pour le scénario, c'est bien ça, et de Giacomo Gentilomo et Sergio Corbucci pour la réalisation, comme je vous le disais à l'époque, un cinéma italien, mais on se débrouillait comme on pouvait. Et alors, honte à moi, mais Gordon Scott, contrairement à ce que je pensais, c'était un pur américain, mais alors pur sucre, le gars, il est né à Portland dans l'Oregon, c'est vous dire. Et avant de s'illustrer dans le peplum italien, eh bien, il fut Tarzan. Il fut d'abord culturiste, hein, ça se voit d'ailleurs, et il fut ensuite Tarzan dans 4 ou 5 films qui sont bien oubliés par rapport à ceux de Johnny Weissmuller, évidemment. Et ensuite, comme beaucoup d'acteurs et autres américains, il se rendit en Italie où les conditions fiscales étaient beaucoup plus avantageuses pour les studios hollywoodiens. On ne se refait pas. Et il tourna donc un certain nombre de péplums comme Massis contre le fantôme. Et ensuite, on le revit avec Sergio Corbucci, c'est mieux, dans Romulus et Rémus. Ah, là encore, plus italien que Romulus et Rémus, je ne vois pas. On va rester avec Corbucci, par contre on va passer à un autre genre, en l'espèce le film d'épouvante, dans lequel les Italiens aussi sont très réputés. Un film tourné en 1964 qui s'appelle Danse macabre, dont le scénario est quand même très alambiqué, puisqu'on y voit un journaliste interviewer Edgar Allan Poe lui-même, qui lui-même fut à l'origine, enfin ses histoires extraordinaire, puis ces nouvelles histoires extraordinaires furent à l'origine d'un nombre incalculable de films des années 50, 60 et plus si affinité. Et le journaliste prend le pari que Edgar Poe ne pourra pas survivre une nuit dans un manoir hanté. C'est quand même une histoire encore très classique du cinéma d'épouvante. Tout cela est un peu tiré par les cheveux, un peu improbable, même si ça fait un gros succès. Il faut dire qu'en vedette du film, il y avait Barbara Steele, alors peut-être un nom qui ne dira rien à la majorité d'entre vous, mais Barbara Steele fut dans les années 60 une icône du cinéma d'épouvante italien. Elle avait tourné quelques semaines, quelques mois auparavant, enfin très peu de temps avant Danse macabre, le Masque du démon de Mario Bava, dans lequel elle était absolument extraordinaire. Et puis ensuite, elle avait tourné chez Fellini, rien de moins, dans 8 et demi. Il faut dire que dans 8 et demi, qui racontait un peu l'histoire de Fellini et des femmes avec son alter ego Marcello Mastroianni, il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Et donc dans les femmes, il y avait Barbara Steele. Et malgré tout, bien qu'ayant tourné avec Fellini, elle accepta de jouer dans Danse macabre. Malchance pour elle, le film connut un gros succès. Et du coup, elle dut rempiler pour d'autres films d'épouvante ensuite. La musique du film, elle est signée de Ritz Ortolani. Tout ça fait bon l'Italie, mais c'est normal. Nous y sommes grâce à 24 notes secondes.
Thank you.
êtes encore là? Les Américains diraient que c'est ce qu'on appelle une musique challenging, un extrait de la bande originale de Danse Macabre, un film d'Antonio Margheriti et de Sergio Corbucci réalisé en 1964. Une musique de Rick Ortolani, alors vous l'avez compris, ça, c'est un film d'épouvante qui se passe la nuit et tout, avec des fantômes, machin. Donc il fallait une musique adaptée, et ma foi, on est proche de la musique expérimentale, il faut bien le reconnaître, mais c'était chapeau, surtout qu'en 1960, on n'avait pas tous les moyens électroniques dont on dispose aujourd'hui, et donc je ne sais même pas trop comment on faisait ça. Ça devait être assez amusant, co-réalisé donc, puisque, et ça aussi, ça illustre une sorte de désinvolture à l'italienne, mais ce qui fait leur charme, c'est-à-dire que quand le film a été prêt, Sergio Corbucci s'est aperçu qu'il était engagé sur un autre film, donc il ne pouvait pas le tourner, donc il a appelé son pote Margheriti, lui a dit, t'attendais pas de tourner à ma place? Oui, ok, d'accord, ah ben oui, mais là, il faut que tu reviennes. Bref, le film est co-signé par les deux, mais enfin, comme je vous l'ai dit, ce fut un gros succès, mais rien par rapport à ce qui attendait Sergio Corbucci en 1966, puisque c'est en 1966 qu'il réalisa un western spaghetti, et sans doute une sorte d'archétype du western spaghetti, l'un de ceux qui a eu le plus grand succès, et qui fut repris par des gens comme, comment s'appelle ce réalisateur américain que je n'aime pas? Ah oui, Quentin Tarantino, notamment, puisque le film il s'appelle Django. Django, un film sorti en 1966, réalisé donc par Sergio Corbucci. Alors là, il y a des, ça s'appelle une occasion manquée. Le rôle principal de Django devait être tenu par Mark Damon, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Et bien, le gars n'était pas disponible. Du coup, il est su à Franco Nero. Alors, Franco Nero, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler non plus. Je vous le concède, mais Franco Nero, grâce à Django, qui fut un succès, mais colossal, non seulement du western spaghetti, mais du film tout court. Grâce à Django, bien Franco Nero fit une brillante carrière, et d'ailleurs pas que dans des films, je dirais, de seconde zone. C'était pas le cas de Django, qui était quand même un western spaghetti très très habilement fait. Alors pourquoi Django, me direz-vous? Eh bien, la légende veut que Sergio Corbucci et son frère Bruno, qui fut son scénariste et un de ses collaborateurs les plus proches, eh bien, dans le film, on voit Django avec les mains brisées, mais qui continue à pouvoir tirer au pistolet. Et donc les deux ont comparé ce dessin à celui de Django Reinhardt, le grand guitariste de jazz dont personne n'ignore qu'il avait été blessé à la main, et que c'est d'une certaine manière grâce à ses blessures à la main qu'il a su adopter son style de jeu à la guitare si particulier. Donc la légende rejoint la vérité, je ne sais pas où elle est, mais ma foi, c'est une hypothèse assez séduisante pour ce film qui, je le répète, fut un très très gros succès du western spaghetti à l'italienne, même si, comme il se doit, comme la majorité des western spaghetti à l'italienne, il fut tourné en Espagne, hein, peut-être qu'on le sait. La musique, la chanson, elle est signée de Luis Bacalov, j'en ai assez parlé, on va l'écouter, le tout, Django, dans 24 notes secondes.
Django, Django, hai amato solo lei,
Django,
Django, ma dimentica se puoi che si vive, che si ama, che si ama una volta sola.
Django,
Django, hai amato solo lei,
Django,
Django, non è più vicino a te, l'hai amata, l'hai perduta, l'hai perduta per sempre, Django. Per sempre. Django. Nasce una stella nel cielo anche per te, e sulla terra una rosa nasce anche per te. Oh Django, dopo il dolore verrà la speranza.
Django, le seul, le vrai, 1966, Sergio Corbucci à la réalisation, Luis Bacalov, un compositeur un peu oublié, à la musique, Franco Nero dans le rôle principal, irradiant de malitude, on va appeler ça, on aime ou pas après. Hein. Et donc, un grand western, le premier de ce que les spécialistes de Sergio Corbucci, ben oui, il y en a, comme de tout, qualifient de trilogie boue et sang, Fango et Sangue, c'est joli, non? Le deuxième étant Le Grand Silence, tourné en 1968 avec Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski, duquel, je l'avoue, j'aurais bien aimé vous proposer un extrait musical, puisque la bande originale est signée Morricone, mais je ne l'ai pas trouvé sur mon site de streaming favori, honte à lui. Et puis aussi, pour les spécialistes ou les pervers, Le Spécialiste, tourné en 1969 avec Johnny Hallyday dans le rôle principal. Alors ça, je vous le recommande, Johnny Hallyday dans un western spaghetti. Bref, tout ça pour dire que Sergio Corbucci aura vraiment tâté à tous les genres au cours de sa longue et fructueuse carrière. Et on va se quitter en écoutant un extrait de la bande originale d'un film qui s'intitule, pardonnez-moi, hein, c'est le titre du film, mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? Ça vous rappellera peut-être un autre film, Il était une fois la révolution de Sergio Leone, évidemment, c'est un peu le même argumentaire du gars qui se trouve pris dans une révolution et il ne sait pas trop quoi faire, sauf que là, c'est Vittorio Gassman, le gars, donc un peu différent, et que le film il est signé de Sergio Corbucci et non pas de Sergio Leone, il faut bien l'avouer. Par contre, ça tombe bien, la musique elle est aussi d'Ennio Morricone, et dis donc. Allez, on l'écoute, je le fais une dernière fois, mais qu'est-ce que je viens foutre dans cette révolution sur 24 secondes. Et voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Arrivederci, ciao!